Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 13, marché conclu. Oui, je vais vous répondre, répéta le seigneur de l'aigle, et de même que vous avez été franc avec moi, je serai franc avec vous. Oui, plus d'une fois j'ai eu en mon pouvoir le capitaine des corps francs, et avec lui les deux autres membres de cette trinité, en qui repose, ainsi que vous le dites vous-même, la force et l'espoir de la province. Oui, je sais comme vous que le jour où ces trois hommes seront morts ou prisonniers, la Franche-Comté sera conquise, car les partisans montagnards, désormais sans chef, se disperseront. La terreur s'emparera des esprits et toute résistance semblera impossible et le deviendra en effet. Oui, j'aurais pu depuis longtemps vous livrer Jean-Claude Prost, le colonel Varose et le curé Marquis. Mais en le faisant, comte de Guébriant, je me serais mis pieds et poings liés à votre discrétion, ou plutôt à celle du roi de France et du cardinal de Richelieu. Et c'est ce que je ne devais pas accepter. La reconnaissance des rois est chose trop douteuse. Une fois le service rendu, ils oublient facilement le serviteur. « Seigneur de l'aigle !» s'écria Guébriant. « Ce doute est une injure !»« Qui ne s'adresse point à vous, monsieur le comte, et que sa majesté le roi Louis XIII ne relèvera pas. » Donc, j'ai dû laisser la guerre suivre ses phases différentes de succès et de revers surtout, afin de vous bien prouver que vous ne pouviez vous passer de moi. Aujourd'hui, et vous voyez qu'en vous parlant ainsi je joue carte sur table, aujourd'hui vous ne pouvez tenir plus longtemps la campagne. Vos troupes sont décimées et épuisées. L'hiver commence. Maître de Saint-Claude, il y a trois jours, vous en étiez chassé hier par une poignée d'hommes moitié paysans et moitié soldats. Il ne vous reste d'autre alternative que d'en finir, grâce à moi, ou de vous avouer vaincu. » Le comte de Guébriant, forcé de convenir vis-à-vis de lui-même qu'Antide de Montaigu avait raison, baissait la tête et mordait sa moustache. « Vous vous sentez le plus fort, » dit-il enfin au bout d'un instant. « Vous savez que vous êtes devenu nécessaire et que le succès dépend de vous, et vous voulez profiter de votre position. » C'est de l'habileté. Et je ne puis vous blâmer d'agir ainsi. Mais je vous répète que les intentions de la cour de France à votre égard sont franches et loyales. La cour de France ? Répéta le seigneur de l'aigle. Eh bien, comte, vous me forcez à aller plus loin que je ne l'aurais voulu, et que je ne le devrais peut-être. Vous me forcez à vous dévoiler ma pensée tout entière. Ce n'est pas de la France que je me défie. Et de qui donc ? Demanda Guébriant avec hauteur. Je vous parle avec calme, messieurs comtes. Écoutez-moi de même. La France m'a fait des propositions. C'est avec la France que j'ai traité. Et c'est à la France que m'attachent tous mes intérêts. Eh bien ? Eh bien, je consens à ce que la comté devienne province française. Mais il est une chose que je ne souffrirai jamais.
Laquelle ?
C'est qu'un autre prétende se tailler dans la province un royaume à part et se forger à nos dépens une couronne de roi des montagnes.
« Je ne vous comprends pas. »«
Vraiment ?» murmura Antide de Montaigu avec un sourire ironique. Puis il ajouta « Rapportez mes paroles au duc de Saxe-Weimar, et vous verrez qu'il me comprendra, lui. » Le comte de Guébriant mordit plus que jamais sa moustache et garda le silence. « Vous vous taisez ? » reprit le seigneur de l'aigle au bout d'un instant. « Tant mieux, car ceci me prouve que nous nous entendons à merveille. » « Je continue. » Oui, la France veut la compter, mais d'autres ambitions veillent et se promettent d'entamer une seconde lutte quand la première sera finie. Vous êtes français, mais vous n'êtes pas au service de la France, comte de Guébriant. Vous avez un maître et vous vous dévouez à ce maître. C'est tout naturel. Or, le duc de Saxe-Weimar, aujourd'hui l'allié de Louis XIII, pourrait bien, après la conquête, se tourner contre lui. Ses projets, ses ambitions, ses espérances sont connus depuis longtemps. Il est vraisemblable que rien de tout cela n'a changé. Vous êtes le premier aide-de-camp de Saxe-Weimar, et c'est avec vous seul que j'ai été mis en rapport. Il est possible, il est même probable que des ordres secrets vous ont été donnés.
Comte de Montaigu ? S'écria Guébriant en pâlissant de colère.
Messire comte ? Demanda Antide avec le plus grand sang-froid.
Vous doutez de ma loyauté et de celle de mon maître ?
Le seigneur de l'aigle se mit à rire. D'un rire un peu contraint peut-être, mais éclatant et sonore.
Ne parlons pas de loyauté, comte de Guébriant, dit-il ensuite. Nous n'ignorons ni l'un ni l'autre que le mot existe, mais que pour nous autres, ambitieux du moins, la chose n'existe pas. Du reste, si je vous ai dit longuement tout ce que vous venez d'entendre, c'était pour en arriver à ceci. Les espérances et les rêves de votre maître m'importent peu, mais il m'importe beaucoup de ne pas me trouver, le lendemain de la victoire, en face d'un souverain, petit ou grand, qui n'aurait contracté envers moi aucun engagement. C'est avec le cardinal de Richelieu et non avec le duc de Saxe-Weimar que j'ai traité par votre entremise. Je veux me trouver en droit et en mesure de défendre la province, au nom de la France, contre tout prétendant, quel qu'il soit, et contre le duc de Saxe-Weimar, aussi bien que contre les autres. Guébriant fit un mouvement brusque. « Ne vous cabrez pas, je vous en prie, messire comte, » poursuivit le seigneur de l'Aigle. « Vous feriez de l'indignation à froid, car vous comprenez à merveille que j'ai complètement raison. » Je finis d'ailleurs, et je me résume ainsi. La nuit dernière, en me quittant, vous m'avez fait l'honneur de me promettre pour cette nuit une solution. Le titre avec lequel vous m'avez salué tout à l'heure, au moment de votre arrivée, pouvait et devait me faire croire que cette solution vous me l'apportiez enfin. Si vous l'avez réellement, donnez-la-moi, car je suis fatigué d'attendre. Je consens à croire que personne, vous entendez, personne n'a cherché à reculer l'échéance de mes engagements vis-à-vis de la Cour de France et de ceux de la Cour de France vis-à-vis de moi. Mais je me verrais contraint de douter si vous m'en refusiez la preuve. Le comte de Guébriant défit quelques-unes des agrafes de son pourpoint et prenant dans son sein un papier plié en forme de lettre, il le tendit au seigneur de l'Aigle en lui disant « Voici la preuve que vous demandez. » Antide de Montaigu saisit avidement ce papier, le déplia d'un geste rapide et le parcourut d'un seul regard. C'était un message envoyé par le duc de Saxe-Weimar au comte de Guébriant. « Cette lettre, dit-il quand il eut achevé, en annonce une autre, une lettre du cardinal de Richelieu, adressée à moi directement et que vous êtes chargé de me remettre. » « Oui, messire comte. » « Et ?» demanda Antide avec un tressaillement d'impatience fébrile. « Cette lettre de son éminence, vous l'avez ?»« La voilà. Les instructions que j'ai reçues me prescrivaient de ne vous la donner qu'au moment où vous auriez acquitté toutes vos promesses. Mais votre franchise a commandé ma confiance. » Le seigneur de l'Aigle brisa le large cachet de cire rouge fermant l'enveloppe épaisse et carrée qui venait de lui être remise par le comte de Guébriant. Il déploya le parchemin plié en quatre et il lut. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, son visage semblait rayonner de plus en plus. Les rides de son front s'effaçaient et de son regard jaillissaient de joyeux éclairs. « Comte de Guébriant, » demanda-t-il ensuite, « savez-vous ce que renferme ce parchemin ?»« Je sais du moins ce qu'il doit renfermer. » »« Son éminence accepte toutes vos conditions, et selon vos désirs, vous nomme gouverneur du comté de Bourgogne à partir du jour où la Franche-Comté sera province française. Oui, messire comte, et je suis heureux de reconnaître que non plus que la femme de César, la loyauté du cardinal, celle du duc de Saxe-Weimar et la vôtre, ne pouvait être soupçonnée. J'ai d'ailleurs à ma disposition un moyen sûr de me faire pardonner à l'instant même mes doutes offensants et de vous prouver en même temps combien vous aviez tort, vous aussi, de croire qu'il y eut dans ma conduite quelque chose de tortueux. Et ce moyen, messire comte, c'est de vous apprendre une bonne nouvelle. L'un des membres de la grande trinité des montagnes est en notre pouvoir. L'accusons ? S'écria le comte de Guébriant. Ni l'accusons ni Varose, répondit Antide. Le père et le fils nous ont échappé, mais nous tenons le Saint-Esprit. Le curé marquis est prisonnier. « En effet, monsieur le comte, c'est là une nouvelle importante. Pouvez-vous me donner quelques détails ?»« Marquis, fait prisonnier par Légry il y a quelques heures, a été tout aussitôt par mes ordres dirigé sur le château de Clairvaux, où le comte de Beaufremont, notre allié, se chargera de le bien garder. Je prendrai à cette occasion la liberté de recommander à vous et au cardinal le comte de Beaufremont. Une position à la cour de France et un régiment suffiront à son ambition. » Il est d'ailleurs, vous le savez, fort grand seigneur. Comptez sur moi. Marquis prisonnier, c'est une capture heureuse et qui nous fait faire un grand pas. Et je me charge de vous livrer l'accusant et Varose. Où sont-ils maintenant ?
Au trou des Gangones.
Tout près d'ici, n'est-ce pas ?
À 1 heure et demie de chemin, tout au plus.
Écoutez-moi, seigneur de l'Aigle. Je ne suis pas un diplomate, moi. Je suis un soldat, et toute trahison me répugne. Barros et l'accusant sont des ennemis, sans doute, mais ce sont de braves gens, mais ce sont des héros. Il faut qu'ils meurent, mais je voudrais les voir mourir honorablement, comme ils le méritent, sur un champ de bataille et les armes à la main.
N'est-il donc point possible, au lieu de les attirer dans un piège comme des fouines ou comme des loups, d'aller les attaquer dans leur retranchement et d'arriver au trou des Gangones ?
Antide de Montaigu sourit.
« C'est chevaleresque, messire comte, » dit-il ensuite.
« Mais malheureusement, c'est impossible. »«
Pourquoi ?
Le trou des Gangones est inaccessible et imprenable. Il faudrait être un aigle pour y parvenir quand les passages sont gardés. 10 hommes résolus tiendraient tête sans peine au défilé de la cascade à une armée tout entière. Je vous le répète, c'est impossible. »
« Ne pourrait-on du moins envelopper dans un blocus rigoureux la caverne et la vallée entière ?
Chefs et soldats pris par la famine seraient bien vite contraints de se rendre. »
« Prisonniers de cette façon ou d'une autre, qu'importe ? » demanda Antide.
« De cette façon, ils subiraient les lois de la guerre. Ils ne succomberaient point par le fait de la trahison. »
« La distinction est subtile ?»«
Pas pour moi, seigneur de l'Aigle, » répliqua sèchement Guébriant.
« Enfin, répondez-moi. » Avec les forces militaires dont je dispose, puis-je enfermer le trou des Gangones dans une infranchissable barrière de rapières et de mousquets ?
Non, messire comte, vous ne le pouvez pas. Et voici la raison de cette impossibilité. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit plus d'une fois au sujet de l'organisation des corps francs du capitaine Lacuzon. Ces compagnies de partisans montagnards sont fortes d'environ 3 500 hommes, disséminées dans tout le Haut-Jura, et qui ne se réunissent jamais complètement que dans les occasions importantes, et lorsqu'ils savent que doit avoir lieu quelque action décisive. Le capitaine a des lieutenants qui commandent les corps dispersés dans la montagne. Ces chefs partiels communiquent avec le chef suprême par des émissaires qui viennent chercher les ordres et retournent assigner le lieu et l'heure du rendez-vous. En 1 demi-journée, l'accusé peut mettre sur pied et faire converger vers un centre commun tous les hommes dont il dispose, et que vous vous attireriez à la fois sur les bras si vous cherchiez à investir le trou des Gangones. Cette caverne, d'ailleurs, n'est qu'une sorte de quartier général où 200 ou 300 montagnards, tout au plus, se trouvent réunis. C'est là que se concentrent les grands dépôts de munitions et d'armes. Des vivres abondants y sont entassés, et il faudrait que le blocus durât bien longtemps pour amener la famine. Ce n'est pas tout. On affirme, et je le crois, que le trou des Gangones renferme des issues secrètes, connues seulement de Lacuzon, de Varose et de Marquis, et qui, par des chemins souterrains, conduisent au loin dans la campagne ceux qui ont des raisons pour ne point se montrer dans la vallée d'Ilay. Comment surveiller ces issues dont nous ne pouvons que soupçonner l'existence ? Vous croiriez avoir enfermé l'accusant dans un cordon infranchissable, et l'accusant, dont notre folle confiance doublerait la force, nous attaquerait par derrière, à l'improviste, avec cet irrésistible élan, avec cette fougueuse audace qu'il sait communiquer aux partisans dont il est le chef, et la sanglante défaite de Saint-Claude aurait un pendant. Vous m'avez convaincu, répondit le comte de Guébriant. Je comprends que vis-à-vis de semblables ennemis, la force est impuissante et qu'il faut employer la ruse.
Et nous l'emploierons, messire comte.
Que comptez-vous faire ?
Je ne le sais pas encore. Mon plan me sera dicté par les circonstances. Je ferai naître l'occasion. Il est facile d'attirer dans un piège adroit des hommes sans défiance.
Judas, murmura Guébriant avec un profond dégoût. Mais assez bas pour que le seigneur de l'Aigle ne l'entendît point.
Dès demain, poursuivit Antide de Montaigu, ou plutôt dès aujourd'hui, car il est minuit passé, je me mettrai à l'œuvre. Et pour commencer, je vous demande la permission de terminer et d'expédier à son adresse une lettre que j'écrivais au moment de votre arrivée, messire comte, et dans laquelle j'enjoins au seigneur de Beaufremont de garder à vue jour et nuit celui qui est la tête et l'intelligence de la Trinité montagnarde, celui que nous appelons le Saint-Esprit, le curé Marquis, enfin. » Tout en parlant, Antide de Montaigu ajouta quelques caractères à ceux qu'il avait déjà tracés sur une feuille de papier et tendit cette feuille au comte de Guébriant.
« Et qui va se charger de votre lettre ?» demanda le comte de Guébriant en la prenant.
« Une vieille femme en qui j'ai confiance et que personne au monde ne peut soupçonner de faire partie de mes agents.
D'ailleurs, si cette lettre était perdue ou enlevée, ceux entre les mains de qui elle tomberait ne sauraient en retirer de grands avantages.
Comment cela ?
Regardez, messire comte. Guébriant examina la lettre qui ne contenait, ainsi que nous l'avons déjà dit, que des caractères bizarres et hiéroglyphiques et des chiffres disséminés çà et là.
En effet, dit-il ensuite, voilà qui ressemble au griffonnage incohérent d'un enfant.
Et je crois que les moines et bénédictins eux-mêmes perdraient leur temps et leurs soins à vouloir déchiffrer ce grimoire.
Cela offre-t-il réellement un sens ?
Oui, messire, un sens très net et très clair.
Seulement le sire de Beaufremont et moi, nous nous servons pour correspondre de certaines formules convenues à l'avance entre nous. Nous défions ainsi toute surprise et tout espionnage.
À merveille, ceci est admirablement combiné, et j'admire la prudence sans bornes que vous savez mettre en toutes choses.
Je crois, seigneur de l'Aigle, que vous serez pour sa majesté le roi Louis XIII un bien excellent et bien précieux gouverneur du comté de Bourgogne.
Je le crois aussi, répondit Antide de Montaigu avec un orgueil naïf.
Il ploya sa lettre, la mit sous enveloppe, la scella avec un cachet qui portait non point l'empreinte de son écusson, mais une simple devise. Ensuite, il fit jouer le ressort que nous connaissons, et il appela Maggie. La vieille femme parut aussitôt.
« Voici, lui dit-il, voici le moment de faire preuve de ce zèle dont vous prétendez être animé.
Vous me verrez à l'œuvre, messire. Les actions sont plus éloquentes que les paroles.
Vous pouvez vous remettre en route sur le champ, n'est-ce pas ?
Oui, messire.
Malgré la fatigue.
Mes vieilles jambes sont vigoureuses et j'ai l'habitude des longues marches.
Combien vous faut-il de temps pour aller d'ici à Clairvaux ?
4 heures.
Ainsi, vous arriveriez avant le jour si vous partiez à l'instant.
Oui, messire.
C'est bien. Prenez cette lettre et mettez-la dans quelque endroit où elle soit en sûreté.
Je la cache dans ma besace.
Les Cuanais, si j'en rencontrais quelques-uns, n'auraient certes point l'idée d'aller la chercher là.
Aussitôt à Clairvaux, vous remettrez cette missive au comte de Beaufremont lui-même.
Vous entendez ? À lui-même.
J'entends, messire, et je comprends, mais je doute fort qu'il me soit possible d'obéir.
Antide de Montaigu fronça le sourcil.
Pourquoi cela ? Demanda-t-il.
Parce que je ne viendrai point à bout de parvenir jusqu'à lui.
Croyez-vous donc que les ponts-levis s'abaisseront devant moi et que les sentinelles laisseront passer Maggie la sorcière ?
Je vais vous donner un moyen d'être introduite auprès du comte de Beaufremont, et cela sans faire antichambre. »
Antide de Montaigu tira de son doigt un anneau d'or, pareil à ceux que portaient les chevaliers romains.
« Prenez cette bague, » dit-il ensuite. « Vous la montrerez à la première sentinelle que vous rencontrerez, en la prévenant que vous venez de ma part. Les difficultés s'aplaniront aussitôt devant vous. »
« Maintenant, messire, je réponds de tout, et je vous promets d'exécuter fidèlement vos ordres.
J'y compte. »
Vous direz au sire de Beaufremont, quand il aura pris connaissance de mon message, que j'attends une réponse.
Est-ce moi qui devrais me charger de vous apporter cette réponse ?
Oui, je suppose qu'il vous la remettra sur le champ. Vous prendrez quelques heures de repos et vous reviendrez ici.
Quelques heures de repos, messire ? À quoi bon ?
Aussitôt que la réponse sera dans mes mains, je quitterai Clairvaux pour revenir au château de l'Aigle.
C'est inutile. Il me suffira que vous soyez de retour ici vers le commencement de la nuit prochaine.
J'y serai, messire.
Par quelle porte devrais-je arriver ?
Par la petite porte du rempart. En voici la clé.
Maintenant, femme, partez vite.
Maggie disparut dans le couloir secret et le panneau se referma derrière elle.
Comte de Montaigu, dit alors le sire de Guébriant, je crois que notre conférence est terminée, et terminée de la façon la plus satisfaisante, puisque nous voici d'accord sur tous les points.
J'en suis heureux, messire, et j'ai hâte de prouver au roi de France et au cardinal que je suis digne de la confiance qu'ils veulent bien avoir en moi.
Il est maintenant de votre intérêt autant que du nôtre que la Franche-Comté devienne province française, car le jour où ce grand événement s'accomplira, vous serez, vous, gouverneur du comté de Bourgogne.
Avant 3 mois, messire, je serai gouverneur du comté de Bourgogne. Car avant 3 mois, la Franche-Comté sera province française.
Voulez-vous donner des ordres pour que mes gens et mes chevaux se tiennent à ma disposition ?
À l'instant, messire.
Le seigneur de l'Aigle sonna, et le valet, auquel il dit quelques mots, se dirigea en toute hâte vers la cour de la citerne. Quelques minutes après, le comte de Guébriant, accompagné jusqu'au dehors du dernier pont-levis par Antide de Montaigu, descendait avec sa petite escorte la rampe qui conduisait à la vallée. Antide, après avoir fait refermer les portes sous ses yeux, se dirigea vers le salon qu'il venait de quitter et dans lequel il rentra en murmurant « Gouverneur du comté de Bourgogne, c'est un grand et beau titre et je saurai le grandir encore. » Le médecin des pauvres, chapitre 14, Alarme. Le moment est venu de rejoindre le capitaine et le prisonnier dans le cachot de la citerne. Tous deux, appuyés à la muraille du rocher, avaient entendu, sans en perdre un seul mot, la longue et cynique conversation que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs. 20 fois le capitaine avait frissonné de dégoût ou pâli d'indignation en écoutant le traître gentilhomme se faire marchander la liberté de la province et la vie des chefs de la montagne. La nouvelle imprévue de la captivité du curé marquis l'avait bouleversé d'abord, mais il s'était calmé et rassuré en se disant « Dès que je serai hors de ce château maudit, je courrai à l'aide du prêtre soldat et je l'arracherai bien vite aux griffes de ces misérables. » L'apparition de Maggie la sorcière et le rôle qu'elle paraissait jouer auprès d'Antide de Montaigu avait été pour le capitaine la plus inexplicable de toutes les énigmes. Cependant, il lui paraissait certain que la vieille femme ne trahissait point, puisque connaissant sa présence au château de l'Aigle, elle ne la dénonçait pas au terrible châtelain. « Mais sire, demanda vivement l'accusant au prisonnier, aussitôt que le comte de Guébriant et le sire de Montaigu eurent quitté le salon, expliquez-moi maintenant comment il se fait que depuis ce cachot, il soit possible d'entendre tout ce qui se dit dans le salon du seigneur de l'Aigle, n'est-ce pas ? Interrompit l'inconnu. « Oui. » C'est bien facile, sinon à comprendre, du moins à expliquer. Il s'agit ici d'un de ces phénomènes qui sont si fréquents dans l'ordre des choses naturelles, et qui cependant pourraient presque passer pour surnaturels. Le cachot dans lequel nous nous trouvons est creusé dans le roc vif, précisément au-dessous de la pièce où le sire de Montaigu se tient d'habitude. L'une des murailles de cette pièce s'appuie sur la voûte même du cachot, dans un endroit où la roche change de nature, et forme une sorte de veine poreuse, éminemment propre, paraît-il, à la transmission des sons. Un savant vous dirait quelle est cette veine et d'où provient la sonorité. Moi, qui ne suis pas un savant, je me borne à constater le fait. La muraille descend jusqu'à la veine du rocher et apporte à sa base les sons qui la frappent à son sommet. C'est bizarre, mais c'est incontestable, puisque si votre oreille ne s'appuyait pas à la roche elle-même, et même dans un espace assez restreint, vous auriez beau écouter, vous n'entendriez aucun bruit. Plus tard, je vous dirai quels événements m'ont révélé, dans une nuit terrible, l'existence de ce phénomène. Et quand vous m'aurez écouté, vous saurez qui je suis. Maintenant, ne songeons qu'à sortir du château. Ne songeons qu'à la liberté. Car la liberté, c'est la vengeance. La cour de la citerne est déserte. Venez. L'inconnu reprit la main du capitaine et lui fit traverser de nouveau le couloir étroit qui du cachot conduisait à la citerne. À peine venait-il d'atteindre la corniche glissante qui régnait tout autour du réservoir que l'eau fut agitée violemment par un corps étranger qui s'y plongeait. En même temps, on entendit à l'orifice de la citerne une voix douce et basse murmurer « C'est l'échelle !» L'accusant sentit la main de l'inconnu trembler dans la sienne. Une foudroyante émotion terrassait ce prisonnier, qui, après 20 ans de torture, touchait au moment de reconquérir l'air et la lumière si longtemps perdus. « Soyez homme, lui dit-il tout bas, soyez fort. Songez qu'il faut du courage contre la joie, comme il en faut contre le malheur. »« Capitaine, répondit l'inconnu d'une voix à peine distincte, l'âme est forte, mais la chair est faible. Il faut me pardonner. » L'idée que j'allais être libre, libre à l'instant, m'avait anéanti. Mais c'est déjà passé, voyez, je suis calme. Partons. Messire, répondit l'accusant, je vais monter le premier. Églantine s'attend à me retrouver seule comme elle m'a laissé. Votre vue pourrait lui arracher un cri de surprise et de terreur, et c'est ce qu'il faut éviter. Oui, oui, répondit vivement l'inconnu. Montez, je vais vous suivre. L'accusant s'élança sur les barreaux de l'échelle, et en une seconde, Il atteignit la margelle et franchit la petite balustrade de fer qui la couronnait. Églantine, très intriguée et très inquiétée par le bruit de voix qu'elle avait entendu dans la citerne, demanda vivement. « Tu n'es pas seule ?»«
Non, » répondit le capitaine.
« Qui donc t'accompagne ?»«
Un ami. »
« Mais comment se fait-il ?»« Tu sauras tout plus tard, » interrompit le capitaine. « Maintenant, cher enfant, je t'en prie, pas un mot de plus. » Églantine se tut.
En ce moment, l'inconnu atteignit à son tour l'orifice de la citerne, et dans un élan de joie et de reconnaissance, il appuyait ardemment contre ses lèvres la main que l'accusant lui tendait pour l'aider à franchir la balustrade. Nous avons dit que le ciel était voilé par un lourd entassement de grands nuages qui s'interposaient, ainsi que de gigantesques boucliers, entre la lune et la terre. Par instant, un rayon, ou plutôt un reflet pâle et timide, se glissait entre deux nuées sombres auxquelles il mettait une bordure d'argent et venait non pas dissiper les ténèbres, mais les rendre visibles. Ces clartés indécises et intermittentes ne permirent point au capitaine de voir le visage du captif délivré par lui, mais suffirent cependant à lui montrer un homme de 55 à 60 ans, d'une taille haute et pleine de noblesse, malgré les haillons qui le couvraient, et portant une longue chevelure blanche qui ruisselait sur ses épaules et une immense barbe également blanche tombant jusqu'au milieu de sa poitrine. Barbe et chevelure lui donnaient l'aspect étrange et presque fantastique de ces chevaliers de la table ronde dont parlent les romans du Moyen-Âge, et qui, victimes des maléfices ténébreux de quelques nécromants, se réveillaient un beau matin après avoir dormi 100 années. Églantine éprouva à cette vue un mouvement involontaire de terreur superstitieuse qui la fit se rapprocher de l'accusant et se serrer contre lui. À peine les pieds de l'inconnu eurent-ils foulé le sol, à peine sa poitrine se fut-elle gonflée de l'air pur et froid de la nuit, si différent de l'atmosphère humide et nauséabonde de son cachot, qu'il tomba à deux genoux et qu'il éleva à la fois vers le ciel pour remercier Dieu, ses yeux, ses mains et son âme. Cette enthousiaste action de grâce fut d'ailleurs de courte durée. Il se releva presque aussitôt et il murmura « Quand vous voudrez, capitaine, je suis prêt et je vous répète que je suis fort. D'ailleurs, quel péril pourrions-nous redouter désormais? Dieu qui vous a envoyé vers moi ne nous abandonnera ni l'un ni l'autre. » « Comptons sur Dieu, messire, » répondit l'accusant, « mais comptons aussi sur nous-mêmes. C'est de l'autre côté de ces murailles seulement que nous trouverons la liberté et avec elle la vengeance. Que cette pensée vous soutienne jusqu'au bout dans notre tâche difficile. Je ne faiblirai pas. Marchons. Je vous suis. Mais auparavant, retirons l'échelle de la citerne, je vous prie. À quoi bon? Il est inutile que le seigneur de l'aigle soit instruit de ma fuite. Quant à présent, du moins. Ne la connaîtra-t-il pas demain?
Non.
Le valet qui m'apportait chaque jour ma nourriture n'ouvrait le guichet qu'à demi et ne m'adressait jamais la parole. Des années pourraient s'écouler sans qu'Antide de Montaigu apprît qu'il a perdu son prisonnier. Il le saura bientôt, mais je veux que ce soit par moi.
Soit, répondit l'accusant en retirant l'échelle et en courant l'appuyer au hangar dans l'endroit où il l'avait prise.
Maintenant, voilà qui est fait. Hâtons-nous. Le capitaine, suivi d'Églantine et de l'inconnu, se dirigea rapidement vers la voûte qui mettait en communication la cour de la citerne avec le chemin de ronde. Là, il s'arrêta et il déroula la corde qu'il portait autour de ses reins.
« Messire, dit-il à l'inconnu, approchez, je vous prie.
Que voulez-vous faire?
Vous attachez cette corde en guise de ceinture. C'est vous qui descendrez le premier.
Moi, le premier? Répéta l'inconnu. Et pourquoi pas cette jeune fille? C'est elle qu'il faut sauver d'abord.
Et c'est justement dans l'intérêt d'Églantine que je veux agir. Une fois que vous serez en bas, je la descendrai jusqu'à vous, et vous la recevrez dans vos bras.
S'il en est ainsi, que votre volonté soit faite. » Le capitaine assujettit solidement la corde sous les bras de l'inconnu.
« Et maintenant, reprit-il quand il eut terminé, nous allons nous engager sous la voûte. Elle n'est pas longue, mais elle est sonore, ce qui rend le trajet dangereux. Retenons notre haleine. Étouffons le bruit de nos pas. Une fois dans le chemin de ronde, où par bonheur la lune voilée ne nous trahira point, marchons dans l'ombre plus épaisse encore, produite par la muraille. songeons enfin que notre vie à tous les trois est en jeu. Prie tout bas et avec ferveur, ajouta-t-il en s'adressant à Églantine. Prie, mon enfant, Dieu écoute les voix innocentes. L'accuson s'engagea le premier sous la voûte, et il continua à marcher en gardant une avance de 4 ou 5 pas, une main sur ses pistolets, l'autre sur la poignée de sa rapière, l'oreille attentive, le regard fixe et cherchant à sonder les ténèbres. Derrière lui venait l'inconnu, soutenant Églantine qui tremblait bien fort, car la crainte d'une surprise la glaçait. Cependant, elle se rassurait peu à peu, et à chaque pas qu'elle faisait en avant, il lui semblait que le péril s'éloignait. Il commençait en effet à devenir probable que la dangereuse aventure arriverait à bonne fin. Déjà la voûte était dépassée, déjà les 2/3 du chemin de ronde étaient franchis. On approchait de cet endroit de la muraille, choisi par le capitaine comme particulièrement favorable pour effectuer la descente. Encore quelques secondes de prudence et de patience, et l'on touchait au but, au salut, à la liberté. Devant les 3 fugitifs apparaissait vaguement et plus sombre sur les ténèbres la façade du principal corps de logis, trouée par les 2 fenêtres lumineuses du salon où le seigneur de l'Aigle caressait avec amour ses plans de trahison et de grandeur. À gauche, l'esplanade terminée par le rempart qui surplombait l'abîme. Les lèvres de l'accuson se remuaient comme pour ébaucher ces 3 mots. « Courage, nous arrivons !» Mais elle ne laissait échapper aucun son. Soudain, une figure humaine sembla se détacher de l'ombre du grand bâtiment avec lequel elle était restée jusque-là confondue. Et une voix qui parut aux fugitifs plus retentissante et plus sinistre que la trompette du jugement dernier éveillant les échos de la vallée de Josaphat, leur cria « Qui va là ?» L'accuson frissonnant s'arrêta, et mesurant du regard la distance qui le séparait de la malencontreuse sentinelle, il se demanda s'il ne pourrait pas arriver jusqu'à elle d'un seul bond et trancher d'un coup d'épée sa parole et sa vie. Mais entre le veilleur de nuit et le capitaine, il y avait un intervalle de 25 à 30 pas. « Qui va là ?» répéta l'homme d'armes pour la seconde fois. L'accuson ne répondit pas et s'élança en avant. Le soldat épaula son mousquet et pressa la détente. Un éclair raya la nuit, une détonation retentit et une balle passa en sifflant à quelques lignes de la tempe gauche du capitaine. En même temps, le soldat recula et se perdit dans l'obscurité en hurlant de toute la force de ses poumons. « Alarme ! Alarme !» À cet appel sinistre résonnant dans la nuit comme un coup de tocsin, tout sembla s'éveiller à la fois dans le château. Des torches s'allumèrent, des silhouettes effarées se dessinèrent sur les fenêtres lumineuses et les voix confuses des hommes d'armes et des valets répétèrent « Alarme ! Alarme !»« Nous sommes perdus !» balbutia Églantine défaillante. « Pas encore !» répondit le capitaine. « Venez, retournons en arrière !» Et il les entraîna rapidement. « Nous allons descendre dans la citerne, leur dit-il, et nous nous y tiendrons cachés jusqu'à la nuit prochaine. » Mais au moment où ils venaient d'entrer dans la cour, 5 ou 6 valets la traversèrent en courant et disparurent sous la voûte que les fugitifs venaient de quitter. En même temps, on voyait des torches s'agiter et se rapprocher. « Nous n'aurons pas le temps !» murmura l'accusé avec désespoir. « Nous n'aurons pas le temps ! Mon Dieu ! Faudra-t-il donc mourir ici ?» Puis après une seconde de réflexion, il ajouta « La terrasse ! Gagnons la terrasse !» Ils s'élancèrent tous les 3 sur l'escalier qui, depuis la cour de la citerne, conduisait à la terrasse. « Au moins ici, reprit le capitaine après avoir fermé la grille qui se trouvait en haut de l'escalier, nous pouvons nous cacher et essayer même de nous défendre derrière les troncs d'arbres et les haies vives. » Elles se blottirent parmi les rameaux vivaces d'un buis gigantesque qui faisait face à la tour. « Capitaine, dit tout bas l'inconnu, au nom du ciel, donnez-moi une arme. Si nous sommes surpris, que j'ai au moins le dernier bonheur de leur vendre chèrement ma vie. » L'accusant lui tendit silencieusement son poignard. Cependant, le bruit et le mouvement augmentaient dans le château, dans les cours, sur l'esplanade. Le seigneur de l'Aigle, aussitôt après avoir entendu le coup de feu et le cri d'alarme, était venu questionner lui-même la sentinelle, afin de se bien assurer qu'il ne s'agissait point de quelque fausse alerte. Puis, convaincu par le rapport de cet homme que des étrangers s'étaient réellement introduits dans l'enceinte du château, il avait donné des ordres pour que les murailles fussent couronnées de sentinelles armées de torches, et il avait organisé les recherches qu'il dirigea lui-même. La cour de la citerne fut le but des premières explorations. On fouilla les hangars, on déchargea jusqu'à la dernière botte de foin dont était chargée la voiture du père de Garbas. On visita les celliers, les écuries, les cuisines. On ne trouva rien. Une douzaine d'hommes envahirent alors la terrasse et la parcoururent dans tous les sens, en formulant les plus terribles menaces contre ceux qui venaient ainsi troubler leur repos. Les uns parlaient de dresser un gibet sur l'esplanade, les autres d'allumer un bûcher sur la plateforme de la tour de l'aiguille, afin d'intimider par un exemple salutaire les populations environnantes. Pendu ou brûlé vif, telle était l'alternative offerte à nos fugitifs. Églantine s'évanouissait à demi. L'accusant serrait convulsivement la poignée de sa rapière. L'inconnu caressait la garde du poignard que le capitaine venait de lui donner.